Voilà, et donc avec Michel, vous savez, Michel, il aime bien pêcher, hein? Avec une canne à pêche, hein, pour les mots en anglais, pêcher, mais vraiment avec une bonne canne à pêche, il aime venir au château, on a des douves. Et donc j'aimerais commencer ce matin avec une petite histoire de poisson. Hein, vous connaissez des histoires de poisson? Mais avec mes voyages, hein, je vais loin, hein, quelquefois en Corée, en Asie, au Cambodge, tout le reste. Et vous savez qu'il y a des poissons très exotiques, hein? Et il y a un certain poisson exotique, on l'attrape, et il est grand comme ça qu'on l'attrape, d'accord, au commencement, tout petit, quelques centimètres. Mais quand on jette ce poisson, on le met dans un bocal, et si c'est un bocal rond comme ça, il va pousser jusqu'à toucher les bords du bocal. Après, il va s'arrêter de grandir, il va tourner en rond pour le restant de sa vie, et après, il va mourir. Un tout petit poisson. Mais quand même, il est gentil. Mais si on prend ce même poisson et on le met dans un aquarium, hein, c'est un peu plus grand, c'est méga église, hein, c'est un peu plus grand, peut-être assemblée de Dieu, très bien. Et donc là, il va grandir. Waouh, quel espace! Et il va grandir jusqu'à ce qu'il touche les bords de l'aquarium. Et donc, ce n'est pas les aquariums en France, c'est comme ça, je crois. Mais je ne sais pas. Mais... Et il va grandir. Et là, on va dire, quel super poisson. Il va atteindre peut-être, comme ça, peut-être. C'est combien ça? 10 cm? 12? 20 cm? 15? 30? Et donc là, on va dire 30, c'est magnifique, 30, waouh! Et le petit poisson dans son bocal, il va dire, oh, mais si seulement je pouvais être à 30 cm comme ce grand poisson dans l'aquarium. Mais si on prend ce même poisson et on jette ce poisson dans la mer, là il n'y a pas de limite pour sa croissance. Non, c'est, il devient, voilà, allez, il mange Jonas. Non, c'est, il grand jusqu'à 1 mètre ou 2 mètres, parce que c'est incroyable comment il peut grandir quand il n'y a pas de borne. Et donc quand je réfléchissais à cette histoire de poisson, j'ai pensé à un verset en Ésaïe 49 et verset 6. Ésaïe 49 et verset 6. Ésaïe chapitre 49, verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Donc là, c'est un peu le travail dans l'église, que ça soit bocal ou aquarium, que voilà, de ramener des restes, d'édifier l'église. C'est très important d'édifier l'église. Très important d'édifier l'église. Bon, il parle d'Israël ici, mais nous, on est greffés dans les promesses d'Israël. Et il dit, c'est peu de faire ça. C'est pas assez. C'est pas assez juste de s'occuper de nous-mêmes. C'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Mais après, il dit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, pour Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas des murailles, il n'y a pas des bornes, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est la passion de Dieu. C'est qu'il veut qu'on aille vers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça notre futur, c'est ça notre vocation. C'est bien d'édifier l'Église. Et donc les jeudis quand on prie, ça fait déjà, c'est super, on a eu 2 jeudis et c'est des moments merveilleux. C'est, on a 2 moments, on a des moments de prier pour l'édification de l'Église. Et là on prie pour chacun, on prie vraiment, on cherche la parole de Dieu. Dieu a parlé de l'espérance jeudi. Ça nous a encouragés de parler de l'espérance. Et on a prié pour l'édification de l'Église. Mais après, il y a une deuxième partie où on prie pour la vision. Pour la vision, pour aller au-delà de nos frontières et d'aller vers les gens qui, peut-être, ne connaissent pas Jésus en ce moment. Et là, je dirais, bon, jusqu'aux extrémités de la terre, ça peut être jusqu'à chez notre voisin. Parce que là, je ne vais pas vous envoyer tout de suite au Cambodge, ça va. Parce que je pense que là, nos extrémités sont déjà là. Déjà qu'on puisse toucher les bornes de notre aquarium. Hein, déjà, il y a la place de grandir, de grandir, de grandir. Mais nous grandissons en allant vers les autres. C'est même les lépreux. Vous savez, il y avait 10 lépreux. Et il dit que quand Jésus a prié pour eux, ils étaient guéris en allant. J'aime bien ça. Ils étaient guéris en allant. Et quelquefois, on est guéri quand nous nous mettons en route pour quelque chose. Si on tourne en rond dans notre bocal, voilà, ça va, on en devient très dépendant. Il faut que quelqu'un, moi, nous, on a un petit poisson chez nous, il faut le nourrir. Et le pauvre, je dis, le pauvre. Quelquefois, je dis, mais il n'a pas de vie, lui, il tourne en rond. C'est pas bon. Et j'ai envie de le mettre, bon, pas dans la toilette, et je, mais de dire, bon, je vais emmener à Dunkerque une fois, je vais le libérer, il va nager jusqu'en Angleterre, et il va vivre une autre vie, il va rencontrer une. Non, mais. Et je dirais que pour avoir du plaisir dans notre vie chrétienne, il faut aussi avoir une vision de chercher, d'aller plus loin, de partager notre foi. Et vous savez, le monde change beaucoup. Et même, surtout en Europe, il y a une grande réalité qui peut nous attrister, mais ce qui nous attriste peut être aussi une opportunité de faire quelque chose de nouveau. Et cette réalité, c'est que les gens ne veulent pas aller à l'église dimanche matin. Alors, je sais que c'est triste, mais les gens que je rencontre, ils ne veulent pas aller à l'église dimanche matin. Et donc, si tout ce qu'on offre aux gens, c'est dimanche matin, bon, ça va, il y a les gens. Merci d'être venus aujourd'hui. Vous avez envie de venir dimanche matin. Alléluia, c'est super. Et donc, on ne va pas mettre une bombe pour dimanche matin. Moi, j'aime bien dimanche matin. Alléluia. Mais je sais qu'il n'y a pas les gens qui se lèvent ce matin en France ou à Lille. Oh, il faut aller à l'église ce matin. C'est même la dernière chose dans leur tête. Peut-être c'est différent. Et c'est très différent des États-Unis. Et c'est différent même d'il y a 40 ans en France. Il y a 40 ans en France, tout le monde allait à l'église catholique. Et c'est pas que nous, des pauvres protestants évangéliques qui souffrent. Tout le monde, même l'église catholique, il n'y a pas des gens qui se lèvent, se met, ah, il faut aller à l'église catholique. Bon, il y a les gens de 50 ans, 60 ans et plus qui sont, ils ont cet automatisme un peu, qui disent, oh, peut-être on va y aller. Mais quand même, s'il y a autre chose, s'il y a autre chose, et s'il y a autre chose, on va pas y aller. C'est pas une priorité. Et donc, si la seule chose qu'on offre aux gens, c'est dimanche matin, ça va. J'étais content de louer Dieu ce matin. Je suis pas en train de dénigrer ce que nous faisons le dimanche matin, et j'espère qu'on va grandir, que ça va être rempli et tout, bien sûr. Mais si nous voulons vraiment, est-ce qu'on a le courage de se jeter à la mer et de, tu sais, on peut plus compter sur l'attirance. C'est-à-dire, voilà, venez, venez, venez. C'est super ici. Peut-être que je peux faire danser les gens, avoir les drapeaux, toutes sortes de choses. Et les gens vont venir. Ah, oh, quand il y a le réveil, les gens vont venir. Sans doute. Mais même avec les meilleures prestations, les gens n'ont pas cet ADN en eux aujourd'hui, en Europe et en France. Et donc là, on doit, au lieu de dire d'attirer les gens, on va essayer d'attirer, on fera de notre mieux. Pas avec des trucs superficiels. On va prêcher la parole de Dieu, on va avoir la sainteté, on va avoir le louange. Et je suis sûr que les gens vont être attirés par ça. Mais attirés par Jésus, bien sûr. Mais il faut changer de mentalité et d'avoir une mentalité d'incarnation. Il faut aller vers les gens. On ne peut plus les attirer chez nous, on doit aller chez eux. Ça, c'est un grand pas. Ce n'est pas un pas facile, mais c'est le pas que l'Église doit faire si elle veut survivre. Il faut aller vers les gens, il faut aller dans leur réalité. Et je pense qu'en allant vers les gens, il faut aussi changer notre mentalité qui est un peu, comment j'ai dit, dualiste, où on voit le côté église dimanche matin, ça on est très spirituel, et le restant de la semaine, bon, Dieu est absent, je vis ma vie et tout ça. Il faut essayer de voir Dieu, comment je dis, holistique, dans chaque élément de ma vie. Quand je suis au boulot, quand je suis dans mes études, quand je suis à la maison, quand je suis à Auchan, quand je fais mes... que j'ai une opportunité dans ces moments Bon, je ne vais pas sortir ma guitare tout de suite, peut-être à la caisse d'eau sans aller. Seigneur, tu es bon. C'est, peut-être, hein, on ne sait jamais, Jacques. Hein, peut-être on peut, c'est comme des petits vélos, maintenant on peut les emmener en train. Peut-être il y a les guitares et boum, tu le sors et tu chantes. Mais d'être présent, de saisir les opportunités que Dieu nous donne et de prier. Parce que je suis sûr que Dieu est à l'œuvre. Moi, je suis convaincu que Dieu, il n'est pas en vacances en France. Qu'il a quand même, c'est vrai avec tous les péchés et tout ça, mais bon, les péchés, il a toujours eu. Et sa compassion, on a vu sa compassion. Dieu a tant aimé le monde. On a même eu la définition de temps ce matin. Et dans ce temps, il y a toute la passion de Dieu qui dit, mais je pense qu'il est déjà là dans beaucoup de vies, en train de préparer, de faire des choses. Et nous, on doit le rencontrer là où lui, il est, dans la société. Et ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est une chose facile. Je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit. Là, ce matin, comme Jacques, j'avais des petites insomnies la nuit, mais des insomnies positives, parce qu'on commence à prier. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, il ne faut pas blâmer, il faut aimer. D'accord? Et je pense que blâmer n'est jamais juste. Si jamais vous avez une tendance de blâmer, ah, vous blâmez vous-même, vous blâmez le voisin, ou vous blâmez Dieu. Il faut éviter. Ah, mais Dieu, j'ai prié, tu n'as pas répondu. Ah, il faut blâmer quelqu'un maintenant. Il faut blâmer quelqu'un. Et même nos blâmes peuvent être très subtils. Mais il faut aimer. Il faut toujours aimer. Et comme j'ai parlé mardi dans l'étude biblique, quelquefois on veut Rachel, et on prie Rachel. Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, je veux tout. Bon, on veut tous une belle vie sans souffrance et tout. Et on prie pour ça. Et c'est notre vision, Rachel, tellement jolie. Mais quelquefois, on se réveille un matin, et finalement, c'est Léa. C'est la dure réalité de la mort, de la maladie, des choses qui arrivent. Et donc, dans ces moments, oh, qui est-ce que je dois blâmer parce que je n'ai pas Rachel? Il ne faut pas jouer ce jeu-là. Il faut aimer. Il faut aimer Rachel, Léa. Il faut aimer notre réalité. Et de dire, moi, je t'aime quand même, Seigneur. Je t'aime quand même. Je t'aime et j'embrasse cette situation sans blâme, mais avec uniquement amour. Et donc, il faut qu'on aille vers les gens. Et en allant, je pense que ça peut stimuler, vraiment, ça peut stimuler une dimension nouvelle dans l'Église. Et c'est ça, c'est avec nos paroles arrivées de Robert, Sylviane, tout ça, on parle de Vision 50. Voilà, Seigneur, notre vision d'aller toucher, pas les gens qui sont déjà dans les églises, pas même je suis content de voir le retour, on peut, voilà, l'édification des chrétiens, tout ça c'est super, mais il faut qu'on aille dénicher, réveiller, voir ce que Dieu est en train de faire chez d'autres. Pas facile. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être ouvrir d'autres structures. Voilà, il y a le bâtiment ici, mais on a nos maisons, on a nos structures de travail. Là, je sais que c'est très délicat en France, séparation de l'Église et l'État, on n'a pas le droit. Je comprends toutes ces choses, et donc je ne vous demande pas de faire des bêtises, mais je vous demande juste de prier et de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous savez, Jésus, il avait une stratégie missionnaire. Peut-être on peut le voir dans Luc 10. Et moi j'aime bien, c'est très brut hein, les évangiles, parce que c'est avant toute l'ecclésiologie, avant tous les évêques en place, c'est super, c'est Jésus qui dit voilà, il faut évangéliser, qui forme les gens et qui les envoie. On n'a plus cette simplicité, malheureusement. Mais j'aime beaucoup, parce qu'il n'y a pas toutes les grandes doctrines, il n'y a pas catholiques, protestants, orthodoxes, c'est juste Jésus qui dit allez les mecs. Et il y a quelques femmes aussi qu'on a vues la semaine dernière, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais là, allez, on va vous envoyer. On va vous envoyer. Donc, leur structure, voilà, Luc 10. Bon, premièrement, bon, ici, il y a 70 personnes en Luc chapitre 10, à partir de verset 1. Verset 2, la moisson est grande. Bon, la moisson est toujours grande. Hein. Moisson est grande. Notre moisson. Cette vision de la moisson. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a toujours peu d'ouvriers. Toujours peu d'ouvriers. Mais est-ce qu'on dit, d'accord, point final, peu d'ouvriers. Mince, qui est-ce que je peux blâmer? Non. Ne fais pas jouer ce jeu-là. Il faut aimer. Et une expression de l'amour, c'est de prier. Donc, je vais prier. Seigneur, je prie. Seigneur, fais de chacun de nous un missionnaire. Priez. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc ça, c'était Jésus. La vie de prière de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a prié? Il a dit, Seigneur, envoie des ouvriers, envoie. Fais de mon équipe une équipe missionnaire. Envoie, multiplie. Il n'a pas dit, oh Dieu, tu vas envoyer des anges pour faire le boulot. Et il est conscient qu'il faut un contexte pour l'évangile, un contexte humain. Et donc là, il met en route une équipe là, son équipe. Et après, une autre chose là, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mince. Ça, c'était très vrai à l'époque pour les disciples. Et je pense que c'est très vrai en France pour nous. On est des agneaux quelquefois au milieu des loups. On n'a pas que des amis quand on partage Jésus. Et donc, il faut accepter la vulnérabilité. Acceptons notre vulnérabilité. Et si vous avez peur, alléluia, c'est une bonne qualification. Si vous vous sentez dépourvu, un petit agneau au milieu des loups, bon, mais vous êtes comme les disciples. On ne peut pas être super barricadé, voilà, j'ai les réponses à tout. Non, il faut être humble, il faut être faible, parce que ça, c'est quand on est faible que la force de Dieu est révélée. Et si Dieu devait compter sur notre force, mais Dieu, il peut faire plus au travers de notre vulnérabilité que par notre force. Donc la vulnérabilité, je vous dis, c'est une qualification. Et après, qu'est-ce qu'il dit en verset 4 bon, non, verset 5. Verset 5. Il parle des maisons. Dans quelques maisons que vous entrez. Et il dit que la paix soit sur cette maison. Et après, verset 6, et c'est là où je veux concentrer. Et s'il se trouve là un enfant de paix, un homme, une femme, ou même un enfant, un enfant de paix, une personne de paix. Et ça, je pensais, la stratégie de Jésus, c'était de trouver une personne de paix. Il ne dit pas il faut trouver un catholique, il faut trouver un protestant, il faut trouver un musulman, un bouddhiste, ou je ne sais pas, un athée, ou il faut trouver... Mais s'il y a une personne de paix, c'est quelqu'un qui en est là. Il y a quelque chose qui accueille, qui est là. Et on ne peut pas travailler avec les personnes qui n'ont pas cette paix. Là, ça te casse quelquefois, les gens qui sont là que pour disputer, que pour t'assassiner, tout ça. C'est difficile, il faut accepter quelquefois quand les gens ne sont pas prêts. Il faut accepter, il n'y a pas tout le monde qui est prêt. Mais quand tu trouves, je pense que c'est ça, si on cherche... Bon, nous, on a parlé de groupe contact des maisons, peut-être il y a d'autres structures, hein, ça c'est juste comme nous on voit, notre bocal un peu, mais peut-être que Dieu, il a toutes sortes de structures, d'environnement. Où là, cet environnement va permettre le contact avec la personne de paix. Et donc, je vous donne une prière. Priez pour des personnes de paix dans votre entourage. Que Dieu vous mette en contact avec des personnes de paix. Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pensez à ce verset. S'il se trouve là un enfant de paix, vous pensez à ce verset. Et vous faites une prière, Seigneur, cette année, dirige-moi vers des hommes et des femmes de paix. Voilà, ça c'est la première chose. Mais maintenant, dans la stratégie de Jésus, ça a marché. Donc là, on va voir Luc chapitre 19 et verset 2. Et on tombe sur qui? Zachée. Donc Jésus... Zachée, c'était un homme de paix. Il voulait voir Jésus. Verset 2, alors un homme du nom de Zachée. Et lui, il était un homme influent, il était chef des péagers. Hein, c'est bien quelquefois d'avoir les gens. Je suis sûr que Dieu a déjà placé son désir il est à l'œuvre dans des hommes influents. Je suis sûr qu'il est déjà à l'œuvre dans certains hommes ou de femmes qui ont une influence, que leur conversion va toucher d'autres. Et ils ont des réseaux. Dieu travaille toujours par des réseaux de relations. Ce n'est pas en marginalisant l'Église que l'Église va grandir. Si on devient un groupe marginalisé, on ne peut pas évangéliser. Se marginaliser n'est pas évangéliser. C'est évangéliser, c'est d'avoir des réseaux de relations. Si nous, on est tous bizarres, extraterrestres, c'est très difficile d'évangéliser. Et donc là, on a besoin de... Quelquefois, moi c'est très dur pour moi d'évangéliser. Parce que qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis pasteur. Quelquefois, je suis un peu marginalisé de la société. Mais bon, j'essaie quand même. Hein. J'essaie de ne pas trop dire les trucs. Ça dépend le contexte et tout ça. Et donc, Zachée, c'est un homme influent. Et verset 3, il cherchait à voir qui était Jésus. Combien de personnes? Ça, c'est les qualifications. Si quelqu'un veut cracher sur Jésus, il ne faut pas trop perdre du temps avec lui. Mais il y a les gens qui cherchent à voir Jésus. Peut-être ils sont dans le New Age, peut-être ils sont bouddhistes, peut-être ils sont musulmans, peut-être ils... Mais il y a beaucoup de gens qui ont un grand intérêt pour Dieu. Et peut-être ils ne croient pas tout de suite comme nous, mais ils cherchent à voir Jésus, ils cherchent quelque chose. Et il y a des gens qui sont dans une souffrance telle, ils voient une vide, et ils ne voient rien dans leur vie. Et ils cherchent quelque chose. Mais ils ne sont pas prêts à venir peut-être tout de suite dans une réunion. Et qu'est-ce que Jésus, verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il levait les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Tu vois la stratégie de Jésus? Je veux demeurer dans ta maison. Et là, je vois quelque chose là. Quand j'ai lu ça ce matin, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, ça, c'est encore une parole que je donne à mon église à Wavrin ce matin. Et donc, vous êtes tous des Zachée ce matin. Bon, vous êtes plus avancés que Zachée. Mais disons que vous êtes là, et Dieu vous dit ce matin, allez, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je pense que c'est ça que j'ai entendu ce matin. Est-ce que vous, pas juste de demeurer dimanche là, je vais chercher Jésus à l'église dimanche, mais est-ce qu'il est là dans ta maison? Parce que c'est là où il y a le témoignage. Si c'est, on peut dire on vit la bonne nouvelle à l'église, mais on vit la mauvaise nouvelle chez moi. Tu vois, et quel témoignage! Si là, on peut chanter, danser, mais quel décalage! Si on ne peut pas avoir Jésus dans ma maison aussi, et déjà dans cette maison ici, mais réellement, Jésus avait besoin d'une maison pour évangéliser. Il avait besoin de la maison de Zachée pour évangéliser. Et donc là encore, je répète, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 9. Jésus parlait à Zachée. Tu sais, il était touché quand Jésus était dans sa maison. Il dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. J'aime bien cette phrase, fils d'Abraham. Oh, nous sommes des chrétiens. Moi, on est des fils d'Abraham aussi. C'est moi, c'est plus large. Je suis quelqu'un qui suit Jésus. Je suis quelqu'un qui suit Jésus. Mais le salut est venu dans cette maison. Quelle stratégie de Jésus, parce qu'il a trouvé un homme de paix. Allez, on va trouver une femme de paix. Jean 4, 7. J'aime bien cette femme-là. Waouh, super. Quel évangéliste. C'est la Samaritaine. Et là, je ne sais pas, elle est à Auchan, je dirais. Parce que maintenant, tu sais, tu rencontres quelqu'un à Auchan, là, à la caisse. Parce que là, elle puise ses ressources. C'est là où on va pour des ressources. Et donc là, c'est samedi à Auchan. Et voilà, il y a la voisine que tout le monde connaît, qui a cinq maris, mini-jupe. Tu vois. Et une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, encore cette vulnérabilité, « Ah, je vais te donner l'évangile. » Non, il dit, « Donne-moi à boire. » Il l'a rendu utile. Il l'a rendu utile. Vous savez, les gens ne veulent pas toujours être servis par les bonnes œuvres des petits chrétiens. Parce que, et après, on va être tellement gentils qu'ils vont être obligés de devenir chrétiens. Tu vois, il ne faut pas toujours... Je ne veux pas cracher dans la soupe. Hein. Mais vous voyez comment c'est. Je ne suis pas vraiment ami avec toi, mais je veux être ami parce que je veux te gagner pour le Seigneur Jésus. Les gens, je pense que le plus grand cadeau qu'on peut faire pour quelqu'un, c'est de leur demander de faire quelque chose. C'est de leur mettre en route, de les rendre utiles. Les gens, ils veulent être utiles. Et je pense que le français, il veut être utile. Moi, je vois les gens autour de moi, ils sont capables de faire des choses, et ils sont mis en route par leur utilité, en faisant quelque chose. S'ils sont toujours, voilà, il faut t'aider, on s'habitue trop. Et ça, là, il faut mettre les gens en route, il faut leur donner des choses à faire. Et Jésus, il est Dieu, hein, il aurait pu dire, voilà, je vais te guérir, je vais te faire ça, je vais te dire, aide-moi à boire. Allez, est-ce que je peux utiliser ta maison? Est-ce que tu peux me prêter? Waouh! Et donc, tout a commencé. Après, ça a ouvert une conversation sur la religion. Il faut louer sur quelle montagne? Est-ce qu'il faut? Les Samaritains disent, le pape dit, et après l'archevêque dit. C'est tout le monde a leur bonne discussion au sujet de la religion. Mais ce qui est le résultat de tout ça, verset 28, moi j'aime bien. Waouh! Tu sais, Jésus, il a une parole de connaissance et tout ça. Vous connaissez l'histoire. Mais verset 28. La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, voilà, évangéliste dans un jour, tu vois, c'est fantastique. Venez voir un homme qui me dit tout ce que j'ai fait. Ne sera-ce pas le Christ? Elle était préparée culturellement, il faut le dire. Il y avait une attente messianique. Il faut voir où les gens sont déjà préparés. Vous savez, on est dans une culture New Age. Il y a beaucoup de gens qui sont ouverts aux choses spirituelles. C'est incroyable. J'ai parlé l'autre jour avec un gars. Incroyable, il est né de nouveau sans Jésus. Incroyable. Je parlais avec lui, il a une boucle d'oreille, tout ça, très, très cool. Et il me dit, je suis mort. Il a une crise cardiaque. Et boum, trois fois il est mort, et il est revenu et dit, je suis un homme nouveau. Mais sans Jésus, hein, pour lui, c'est quelque chose. Et moi, je suis en train d'essayer de bricoler Jésus, de dire, voilà, de lui parler. Il a commencé à vivre autrement, tu sais, manger autrement. Et il dit, avant, j'étais athée. Il m'a dit carrément, j'étais athée. Et maintenant, je sais qu'il y a quelque chose. Mais il est devenu un peu bouddhiste. Hein. Moi, je vois qu'il est. Mais d'un côté, il y a une attente. Il y a une attente, il y a quelque chose. Tu sais, on n'a pas toujours eu ça. On n'a pas toujours eu ça en France. Il y avait voilà, l'athéisme, paf, paf, logique et tout ça. Mais les gens, ils commencent à avoir une ouverture spirituelle. Même ce gars, j'étais athée avant et moi maintenant, je suis. Et bon, je ne sais pas s'il va vouloir Jésus. Parce qu'avec Jésus, tu as une croix et tu vois. Voilà, il faut dire non au péché et tout le reste. Mais on peut commencer comme Jésus. Et peut-être que Dieu, qui sait, en dialoguant, peut-être j'aurai une parole de connaissance, peut-être il y aura des choses, il va être touché, le Saint-Esprit va agir, et il y aura une révélation. Mais après, cette femme est devenue évangéliste. Elle parlait à tout un village. Et verset 39, c'est la stratégie tout simple de Jésus. Elle n'a pas dit, allez, venez à l'église. Il était là, là, au champ. Il était là, dans son contexte. Et après elle, dans son contexte, parler dans son village. Et verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Mais pourquoi? À cause de la parole de Jésus, non, de la femme qui rendait ce témoignage. Oh Seigneur, tu n'as pas changé, c'est simple. Et les gens qui ont cette fraîcheur, c'est ça, c'est pas si vous vous souvenez de la fraîcheur de ces premiers jours quand vous vous êtes converti. Quand là, vous êtes né de nouveau et vous avez envie de parler aux gens. Moi, je sais quand ça m'est arrivé. Bon, je ne pouvais pas me taire. Ce n'était pas un devoir, ce n'était pas difficile. Je ne devais pas juste, oh, qu'est-ce que je vais dire? Quelle stratégie? J'étais là-bas, laisse-moi te dire ce que tu as... Parce que j'avais une expérience fraîche. C'était réel. Ça débordait. Je voulais parler de ce que Dieu avait fait pour moi. Et ça, j'ai dit, mais Robert, réveille-toi. Que tu retrouves ta fraîcheur, que tu peux dire, voilà, oh Dieu a fait quelque chose pour moi il y a 30 ans. Non, Dieu a fait quelque chose pour moi cette semaine. Et je veux partager, qu'il m'enthousiasme, qu'on retrouve cette fraîcheur. Mais il n'y a rien de plus merveilleux qu'un nouveau-né. Hein, tout le monde, même physiquement, ils aiment des nouveaux-nés. C'est magnifique. Et on a besoin de ça dans notre église. On a besoin d'avoir ces hommes de fait. Avec leur nouvelle naissance, ils vont parler, ils vont attirer les gens. Et même si tu commences à prier pour ça, d'avoir une personne, paf, ça va partir, ça va partir. On peut prier pour ça. Et donc, femme samaritaine, allez, on va terminer avec un autre, Corneille. Corneille. Donc, acte 10. Donc, lui, c'est peut-être quelqu'un qui fait déjà la prière. Moi, je pense aux musulmans quand je vois Corneille. Hein. Ils sont déjà trois quarts sur le chemin. Là. Et voilà, il y a un homme, acte chapitre 10, verset 1. Un homme du nom de Corneille, centenier. Il était pieux. Voilà, on a beaucoup de gens pieux déjà. Et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Voilà, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes. Voilà. Et il priait Dieu constamment. Je ne sais pas combien de fois par jour, mais voilà. Là, il était là, préparé. Et bien sûr, il y a une intervention surnaturelle, sans doute les gens priaient. Peut-être même Pierre, là, Dieu devait casser ses préjugés. Je ne vais pas donner toute l'histoire, mais peut-être quelqu'un priait, Seigneur, donne-nous un homme de paix. Et ça est tombé sur Corneille. Ça est tombé sur Corneille. Et quelle ouverture avec Corneille. Et après, voilà, pour Pierre, il doit être changé. Oh, j'aime pas ces gens, ils sont sales, ils sont horribles, ils croient pas comme nous, et tout ça. Et donc, il veut même pas aller. Même Dieu lui demande trois fois. Mince, trois fois. Bon, je pense que Pierre frôlait la mort ce jour-là. Je pense vraiment qu'il frôlait la mort, parce que s'il avait dit non quatre fois, je suis sûr qu'on n'aurait pas eu des papes. Hein. Mais... il a dit oui. Et verset 24, il arrive le jour suivant à Césarée. Et Corneille les attendait. Et qu'est-ce qu'on lit après? Et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Ses parents et ses amis intimes. Et après, tu vois, il avait créé un contexte là. Et Pierre, il entre et il dit, voilà, je suis content d'être avec vous. Dieu m'a montré, peut-être verset 34, je peux le dire. Alors, Paul ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, ceux qui le craignent et qui pratiquent la justice, lui est agréable. Il y a des hommes de paix. Et je pense que Dieu n'est pas... Les gens qui prient ne sont pas toujours méprisables. Les gens qui ne sont pas évangéliques, protestants, voilà, ils ne sont pas comme nous. Pff, méprisables, c'est le diable, ils prient Satan, c'est un faux Dieu, tout ça. T'sais. J'ai déjà entendu. Quelquefois, il y a des extrêmes, mais moi, je connais, même chez les évangéliques, les gens qui sont remplis des démons, tout en priant Dieu, tu vois. Et donc, il y a les mauvais, et il y a des vers dans toutes les pommes. Hein. Et donc là, je dirais que là, il ne faut pas juger trop vite. Il y a le mal, mais il y a aussi le bien, quelquefois. Je ne dis pas que les gens sont sauvés. Il manquait quelque chose à Corneille. Il manquait le déclic, Jésus. Mais il était déjà préparé, pieux. Et il faut que nos préjugés tombent. Quelquefois, un des plus grands obstacles pour l'évangélisation de l'Église, c'est nos préjugés. Nos préjugés évangéliques, je dirais. Quelquefois, nous, évangéliques, on est terribles. On est trop vite dans notre jugement. On veut attendre, on veut tout de suite, tac, 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 tac. Mais quelquefois, ça prend du temps. Et la clé aussi pour l'évangélisation de Corneille, c'était le changement du cœur de Pierre. Que Dieu change nos cœurs aussi. Qu'il nous donne cet amour, ce désir d'écouter Dieu et de partager sa parole. Et après, Pierre, il partage l'évangile. Très simplement, verset 39. L'essentiel est dans l'essentiel. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester. Voilà, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Il n'y a rien de plus simple. Et après, verset 44, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah, est-ce que c'est notre rêve, ça? Mais est-ce que ce rêve, ça a eu lieu où, ce réveil? Dans l'église, dans la synagogue? C'est dans la maison de Corneille. Tu sais, notre réalité des gentils qui croient. Tu sais, ça c'est le Pentecôte païen. Ça c'est le Pentecôte païen. C'est tous les païens là, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient sauvés. Et ça a eu lieu dans une maison. C'était pas dans une cathédrale, c'était pas dans la synagogue. Et c'était dans une maison. Avec le réseau de Corneille. Et après, boule de neige jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce qu'on doit retrouver la simplicité de Corneille? Et juste dire, voilà, et ça c'est Rachel, hein. Je parle de Rachel, là, verset 44, mon Rachel, hein, je parle en code maintenant pour les gens qui n'étaient pas à l'étude biblique. Vous pouvez aller sur le site web de l'église ou la page Facebook avoir des enseignements. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oh Seigneur, ça c'est aussi une prière que je vous donne. Vraiment de dire, voilà, donne-nous des hommes de paix et des femmes de paix, mais aussi, Seigneur, que le ciel s'ouvre, et que tu crées ces mouvements de réveil, ces mouvements de conversion. C'est ça qu'il faut pour la France. Il faut qu'on fasse autre chose. Si on continue de faire les mêmes choses, de la même manière, on aura le même résultat. Et donc ça, mais il faut, si on veut avoir d'autres résultats, il faut oser se jeter à la mer. Et peut-être de faire cette prière encore de... Bon, pas de faire cette prière, mais d'écouter. Je vais terminer avec ça. Avec Jésus a dit à Zacharie. C'est, j'allais reparler des groupes contacts, mais je laisserai Sylviane juste à la fin parler de ça. C'est ouvrez votre maison. C'est ça notre désir, notre stratégie, d'ouvrir votre maison, être responsable, juste pour commencer à prier pour des hommes et des femmes de paix, ou même de faire une petite réunion où vous invitez des gens, et voilà, que ça soit convivial. Pas forcément une grande prédication. Moi, je suis nul pour les groupes contacts. Je prêche trop, j'ai trop la parole. Je tue tout par ma parole. Et là, quand on a fait les groupes contacts à Thumry, ça marchait beaucoup mieux quand j'étais pas là. Parce que là, les gens partageaient, ils se sentaient à l'aise, c'était juste de simplicité. Quelque chose où il y a la simplicité, un repas, ou c'est juste... Mais laissez le Saint-Esprit vous inspirer pour tout ça. Et là, on aimerait bien, sans contrainte ni tristesse, hein. On n'est pas là pour ça. Et comme je dis sans blâmer, je suis pas là pour blâmer, je suis là pour aimer. Mais si nous voulons grandir, il faut vraiment qu'on ait une maison à Wavrin, à Ronchin, et là où Dieu nous place, que ça soit des petites cellules de vie où on témoigne. Et peut-être Dieu va nous mettre en contact avec des hommes et des femmes de paix. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On ne peut pas faire pire que de ne rien faire. Ce n'est pas grave. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Mais vous allez grandir. Vous allez grandir dans ces circonstances. Et donc, je termine avec le mot de Jésus à Zachée. Écoutez bien. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen.